On se retrouve lundi prochain. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 14 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En République démocratique du Congo, une vingtaine de corps ont été retrouvés après l'éboulement d'une mine d'or dans le sud Kivu, où des personnes sont ensevelies depuis vendredi. Inculpation au Rwanda de Paul Rusesabagina pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion. En Côte d'Ivoire, des manifestations contre la candidature du président Alassane Ouattara ont dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Visite du président Donald Trump en Californie, l'un des États touchés par des incendies meurtriers et destructeurs. Démission de l'ambassadeur américain en Chine dans un contexte de forte tension entre Beijing et Washington. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Côte d'Ivoire, des manifestations contre la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat ont dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre ce lundi matin dans plusieurs villes. Le point avec Eric Manirakiza.
À Yopougon, quartier populaire d'Abidjan, des échauffourées ont opposé forces de l'ordre et des jeunes, mais le calme est revenu à la mi-journée. À Bangolo, des manifestants ont incendié des véhicules, mais ont été dispersés par la gendarmerie à coups de gaz lacrymogène. Des barrages ont tenté de bloquer plusieurs routes dans l'ouest, mais ont été démantelés par les forces de l'ordre. Le Conseil constitutionnel doit publier cette semaine la liste des candidatures validées pour la présidentielle du 31 octobre sur les 44 dossiers déposés, dont celle d'Alassane Ouattara, des anciens présidents Henri Konan Bédier et Laurent Gbagbo et l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Les mandats présidentiels sont limités à deux, mais les partisans de M. Ouattara affirment que le changement de constitution en 2016 a remis le compteur à zéro, alors que l'opposition juge illégale la candidature de M. Ouattara.
L'armée nigérienne a rejeté les allégations dans un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme sur l'exécution de dizaines de civils dans la région de Tillabéri. Les personnels des forces armées reçoivent dès leur formation initiale un enseignement sur le droit de la guerre. Les troupes n'agissent donc pas en électrons libres, hors du contrôle de leur hiérarchie, indique un communiqué signé par le ministre de la Défense, Issoufou Katambe. En République démocratique du Congo, au moins 19 corps ont été récupérés après l'éboulement d'une mine d'or à Kamituga vendredi dans le sud Kivu. Le point avec Eddy Issango.
Les recherches se poursuivent depuis trois jours dans la boue qui s'est formée sur les lieux. Les mineurs artisanaux, mais aussi les députés locaux, estiment qu'une centaine de personnes ont été englouties. Le maire de Kamituga, Alexandre Bundia, a expliqué à VOA Afrique qu'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville vendredi est à l'origine du drame. Les creuseurs ont été surpris par la montée des eaux des pluies avec celle d'une rivière qui longe la cité. Vu l'état des décompositions des corps récupérés, l'enterrement a commencé et s'est fait rare au fur et à mesure des découvertes. Il n'y a plus aucune chance de retrouver des survivants car la boue et les eaux ont bouché toutes les entrées, estime le maire de Kamituga. Personne ne connaît le nombre des creuseurs portés disparus car ils ne sont pas enregistrés. La mine est située près d'une zone concédée à une filiale des Banro, Kamituga Mining, qui a suspendu ses opérations en 2019.
Nous entendrons le maire de Kamituga dans la rubrique des dossiers du jour. Au Rwanda, Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, a été inculpé pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion par un tribunal de Kigali. Yakuba Ouedraogo nous en dit plus.
12 charges pèsent contre Paul Rusesabagina. Parmi elles, terrorisme, formation et financement de groupes armés, meurtre et incendie volontaire. L'accusé ne s'est pas exprimé devant la cour. Les charges contre mon client ne sont pas valables. Il ne devrait pas être accusé de crimes commis par d'autres, quand bien même il aurait conclu des partenariats avec eux, a déclaré son avocat David Rugaza, demandant qu'il soit immédiatement mis en liberté provisoire. La police rwandaise a annoncé fin août l'arrestation de M. Rusesabagina, un critique du gouvernement de Paul Kagame qui vivait en exil depuis 1996. Il a fondé en 2018 le mouvement rwandais pour le changement démocratique qui dit avoir un bras armé, le Front National de Libération, considéré comme terroriste par Kigali. Rusesabagina a lui-même revendiqué une attaque à l'intérieur du Rwanda. Sa famille affirme qu'il a été enlevé au cours d'un voyage à Dubaï. Human Rights Watch estime qu'il a été victime d'une disparition forcée. Le président Paul Kagame a démenti, laissant entendre qu'il pourrait avoir été trompé sur sa destination finale.
En Libye, le gouvernement de Benghazi a démissionné à la suite de manifestations ces derniers jours dans des villes de l'est du pays contre la corruption et la détérioration des conditions de vie. Le chef du gouvernement parallèle, Abdallah Al-Thani, a présenté sa démission dimanche lors d'une réunion avec le président du Parlement installé à Tobrouk, a indiqué le porte-parole du Premier ministre. La justice algérienne a de nouveau reporté le procès de l'opposant Karim Tabou, figure du Irak, à la veille du verdict de l'appel du journaliste Khaled Drareni. Tabou sera jugé le 26 octobre, suivant une demande de la défense. L'opposant a comparu devant le tribunal de Coléa. Il avait été détenu pendant 9 mois avant une libération conditionnelle le 2 juillet. Il est poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Visite du président Donald Trump ce lundi en Californie, l'un des 3 États de la côte ouest américaine ravagés par des incendies records qui ont fait au moins 35 morts et brûlé plus de 2 millions d'hectares. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le président doit rencontrer des responsables des services d'urgence qui se battent pour contrôler ces incendies. Plus de 30 000 pompiers combattent les incendies en Californie. Pour le président, la gestion des forêts dans ces États est la cause principale de ces feux. La question, c'est la gestion forestière, a-t-il lancé lors d'un meeting de campagne dans le Nevada samedi soir. Mais pour les responsables locaux, démocrates pour la plupart, l'ampleur de ces feux est liée au changement climatique qui aggrave une sécheresse chronique et provoque des conditions météorologiques extrêmes. Selon le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, il ne s'agit pas de gestion forestière ou de ratissage. Tous ceux qui vivent en Californie se sentent insultés par cette affirmation. Les fumées âcres dégagées par les flammes affectent des zones immenses. Les villes de Portland, Seattle et San Francisco figuraient parmi les plus polluées du monde dimanche, selon le classement de la société IQR.
L'ambassadeur américain en Chine, Terry Branstad, a présenté sa démission, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, dans un contexte de forte tension entre Beijing et Washington. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le départ de Terry Branstad a été confirmé par l'ambassade américaine à Pékin. À 73 ans, le diplomate prend sa retraite et quittera la capitale chinoise le mois prochain. Mike Pompeo s'est dit fier du travail accompli, estimant que M. Branstad avait contribué à rééquilibrer les relations entre les États-Unis et la Chine afin qu'elles soient davantage basées sur des résultats bilatéraux et équitables. Le ministère chinois des Affaires étrangères a remercié le diplomate pour ses services. En poste à Pékin depuis 2017, M. Branstad a représenté Washington durant une période de tension avec la Chine à propos du commerce, de revendications territoriales locales, de la pandémie et des troubles à Hong Kong. En juin, il avait été convoqué par Pékin après la signature par le président Trump d'une loi autorisant des sanctions contre les dirigeants hongkongais, une action que le ministère chinois des Affaires étrangères avait qualifiée de grossière interférence dans les affaires intérieures chinoises.
Plus de 300 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés en un seul jour dimanche, selon l'OMS. 6 pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne et l'Italie, ont commencé à tester un système de traçage contre la propagation du coronavirus qui devrait être effectif en octobre. Le gouvernement afghan a insisté ce lundi sur une trêve avec les talibans au troisième jour des pourparlers à Doha. À la cérémonie d'ouverture samedi, en présence du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, les responsables afghans ont appelé un cessez-le-feu, estimant que les insurgés pourraient s'y plier en échange d'une nouvelle libération de prisonniers. Les talibans n'ont pas mentionné de trêve. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Ghana veut augmenter le prix du cacao garanti aux agriculteurs d'au moins 21% à 1 745 $ la tonne pour la saison 2020-2021 qui commence à partir du 1er octobre. Le Ghana rejoint ainsi la Côte d'Ivoire qui prévoit d'augmenter pour la même saison le prix garanti aux producteurs de plus de 21% à 1 000 francs CFA le kilo contre 825 francs CFA. En juin 2019, les deux pays ont établi un prix plancher de 2 600 $ la tonne et un différentiel de revenu vital de 400 $ par tonne. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent plus de 60% de la production mondiale de fèves de cacao. En Afrique du Sud, Harmony Gold a annoncé ce lundi avoir finalisé le processus d'achat des actifs d'AngloGold Ashanti pour environ 300 millions $. À partir du 1er octobre, Harmony prend ainsi le contrôle de Mine West Solutions et de Mponeng, la mine d'or la plus profonde du monde. Le ministère sud-africain des mines a approuvé la vente à condition qu'AngloGold Ashanti ne se retire pas de la bourse de Johannesburg. Pour terminer, le géant en ligne Amazon veut créer 100 000 nouveaux emplois aux États-Unis et au Canada en ouvrant 100 nouvelles installations dans les deux pays. Les nouveaux bâtiments comprendront les centres de distribution et de postes de livraison. Amazon a déjà créé plus de 175 000 nouveaux emplois depuis mars.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Nicolas Nkoulou fait son retour en sélection camerounaise. Les Lions indomptables seront en stage aux Pays-Bas du 5 au 13 octobre pour les prochaines journées FIFA. Le Cameroun fera face au Japon en match amical le 9 octobre à Utrecht. Le sélectionneur Tony Conceição a retenu une liste de 32 joueurs parmi lesquels le défenseur du Toruno qui était en retrait de la sélection depuis le sacre à la CAN 2017. Le milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne, Ivan Neyou, a été appelé pour la première fois. Les autres cadres comme Eric Maxime Choupo-Moting, André Onana, Karl Toko Ekambi, André Franck Zambo Anguissa, Clinton Djé et Vincent Aboubakar ont été convoqués. Ici, en NBA, l'entraîneur Mike D'Antoni, dont le contrat expirait à l'issue de cette saison, a décidé de ne pas poursuivre l'aventure entamée il y a 4 ans avec les Houston Rockets après leur élimination 4-1 par les Lakers de LeBron James en demi-finale de conférence Ouest. C'est avec une grande tristesse que j'annonce la fin d'une incroyable aventure vécue à Houston, a déclaré D'Antoni. Mike est un vrai professionnel et un vrai cerveau du basket. Nous avons été bénis d'avoir eu un tel coach pendant 4 saisons, a réagi le propriétaire de la franchise Tillman Fertitta. Le bilan d'Anthony, 69 ans, est de 217 victoires et 102 défaites durant son mandat texan. Il a conduit l'équipe une fois en finale de conférence et 3 fois en demi-finale. Toujours ici, aux États-Unis, des dizaines de joueurs et d'entraîneurs se sont agenouillés et 6 équipes sont restées dans leur vestiaire pendant l'hymne national américain. Hier, à l'occasion des premiers matchs de la nouvelle saison de football américain NFL, nous ne resterons pas silencieux, nous ne serons pas neutres, nous ne serons pas passifs, ont justifié les Colts sur Twitter, ajoutant, je cite, « Cette action vise à souligner que la présence, le pouvoir et l'oppression du racisme restent incompatibles avec l'unité et les libertés qui déterminent ce qu'est être américain. » À Atlanta, les membres des Seattle Seahawks et des Falcons se sont aussi agenouillés immédiatement après le coup d'envoi de leur match. Pendant leur échauffement, les joueurs et les entraîneurs des Seahawks portait des t-shirts portant le slogan « Nous voulons la justice ». Tennis, après sa victoire à l'US Open, Dominique Thiem a consolidé sa 3e place au classement ATP, toujours dominé par Novak Djokovic, même si la première finale remportée en Grand Chelem par l'Autrichien lui permet de talonner Rafael Nadal 2e. L'Espagnol fait son retour cette semaine sur le circuit à Rome. 6 mois après son dernier tournoi joué et gagné à Acapulco en février. Le classement n'apporte pas de grands changements dans le top 10, mais plus loin, on note la belle progression de l'Espagnol Pablo Carreño, 18e, qui a atteint la demi-finale de l'US Open et la 20e place du jeune Canadien, Félix Auger-Aliassime, 8e de finaliste à New York.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, les travaux de la concertation nationale ont permis l'adoption d'une charte de transition. Le M5-RFP dit ne pas se reconnaître dans le document final après 3 jours de discussion. Plusieurs leaders politiques ont aussi dénoncé des zones d'ombre, notamment sur le choix par les militaires d'un président de transition et d'un premier ministre, ainsi que sur la formation d'un organe législatif. Notre correspondant Kassim Traoré a recueilli des réactions à Bamako.
Ces journées de la concertation nationale ont permis aux Maliens de se parler, de discuter de l'avenir du pays. Zabi Oulou Sidi Mohamed, participant.
Le Premier ministre peut être civil, mais cette transition, si on veut que vraiment le pays s'en sorte, il faut laisser les militaires gérer la chose. On dit qu'on n'est pas content que l'autorité de l'État du Mali n'est pas sur le terrain. Mais quel est le civil que vous allez mettre qui peut mettre un appareil efficace et qui va mettre le...
Fad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du Gatia, trouve que les militaires ne peuvent pas gérer la transition.
Est-ce que Hassini Goïta, si demain on les trouve dans un luxe présidentiel, ces hommes sur le terrain, ils vont accepter de faire face aux ennemis? Les militaires que je vois ici, ils ont beaucoup de travail. Aujourd'hui, ils sont tous en uniforme ici. Demain, vous leur donnez des fonctions civiles, vous les verrez tous en costume. Et que tous les autres hommes-là, ils vont venir faire la même chose. Donc, on ne doit pas commencer par construire un Mali qui sera défait demain. Le fait qu'ils se soient entendus le 18, il y a c'est déjà suffisant pour l'armée pour mettre la pression sur qui que ce soit à la transition.
La synthèse de la concertation n'a pas été acceptée par certaines participantes comme Sey Mariam Traoré, présidente de l'atelier 4.
Venant de suivre la synthèse des travaux de 3 jours, on s'est rendu compte que les préoccupations du peuple malien n'ont pas été prises en compte. Et nous sommes déçus parce que nous sommes des femmes, nous sommes des mères. Nous nous sommes battus pour le changement dans ce pays-là. Et nous nous rendons compte que nous n'avons pas été considérés nulle part. Et nous sommes déçus.
Au cours des débats, l'ancien premier ministre Moussa Mara a fait savoir que la charte viole la constitution actuelle du Mali.
La première discussion majeure d'abord sur ce document, ce sont ses rapports avec la constitution. Le document, il dit qu'il complète la constitution. Mais le document, il viole la constitution en beaucoup d'endroits. Donc pour moi, il faut qu'on soit clair. Soit ce document suspend la constitution de 92 et il crée les conditions d'une vraie transition avec les organes, avec tous les éléments. Soit on va dans la constitution de 92, mais on ne peut pas être au milieu.
Le M5-RFP, de son côté, a rejeté le document en bloc. Choguel Kokala Maïga, membre du comité stratégique du M5-RFP.
Le M5-RFP condamne la non-prise en compte unilatérale de nombreux points du document qui n'avaient pas fait l'objet ni de rejet, ni même de réserve dans aucun groupe. La volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir du peuple au profit du CNSP ne saurait justifier les méthodes employées qui affaiblissent gravement le processus de transition.
À la fin des travaux, le cinéaste Souleymane Cissé n'a pas caché sa colère. Il était parmi les délégués des artistes du Mali.
Moi, je ne suis pas satisfait parce que la culture est toujours laissée de côté. Et ce mouvement, si cette charte-là est faite sans tenir compte de la culture des arts, vraiment, on reviendra encore dans 10 ou dans 20 ans dans cette salle. Pourquoi? Depuis 60 ans.
Plusieurs observateurs pensent que des correctifs peuvent être être apporté à la charte, qui d'ailleurs n'a pas été adopté par les participants de la concertation nationale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Demain mardi, dans À votre avis, votre émission de débat, 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Nous revenons sur les inondations qui ont fait, selon les Nations Unies, plus de 300 morts dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et d'Afrique de l'Est. Le Niger est un des pays les plus touchés, avec 71 victimes et plus de 350 000 personnes affectées. Quelle est la situation dans votre pays? Comment faire face à ces inondations récurrentes ou pour empêcher les dégâts? Venez en discuter dans À votre avis à 18h05 sur l'antenne de VOA Afrique. Laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons.
Au Niger, le corps électoral est convoqué pour les élections le 13 décembre. Les régionales se tiendront avant la présidentielle du 27 décembre. L'opposition rejette le fichier électoral biométrique malgré son caractère fiable, selon l'OIF qui l'a audité. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie ont déclaré à l'issue des 5 jours de travail que le fichier électoral biométrique nigérien est fiable. Ils ont toutefois fait quelques recommandations à la Commission électorale nationale indépendante.
Rééquilibrer les bureaux de vote dont le nombre d'électeurs est moins de 50. Car le code électoral prévoit un minimum de 50 électeurs par bureau de vote. Corriger les données des électeurs avec un statut non valide et ayant obtenu un numéro d'identification nationale. Il y a environ 7000 électeurs. Publier le répertoire des bureaux de vote. Publier la liste électorale sur Internet. Mettre en œuvre un système de consultation de la liste électorale par Internet et par SMS.
L'opposition politique boycotte l'ensemble du processus électoral, a rejeté en bloc les résultats de ce audit. Amadou Jubo Ali Dimax, un de ses leaders.
Comment voulez-vous qu'on vienne dire qu'on a audité un fichier tel que celui du Niger en 5 jours. Est-ce que c'est sérieux? C'est de la mascarade. C'est de l'arnaque. Et il faut que ça se sache au nom de l'opposition. C'est que vous le savez déjà que cet audit est rejeté. Et j'en appelle à l'OIF de faire attention à sa crédibilité.
Au niveau de la majorité, l'on estime que tout cela est du dilatoire. Les partis politiques de l'opposition finiront par prendre part à ces élections. Mohamed Bazoum, candidat et président du parti au pouvoir.
Nous savons que tout le monde est en train de se préparer pour ces élections. Nous ne connaissons pas un seul parti qui en a les capacités, qui n'est pas en train de préparer des dossiers pour toutes les élections. C'est parce que nous sommes sûrs que, au-delà du discours, ils savent que ces élections sont régies par des textes qui sont des textes justes, c'est le code électoral en l'occurrence, et ils savent que leur participation au processus électoral est garantie par un texte sur lequel il n'y a pas beaucoup de débats à faire.
Après les résultats de l'audit, la Commission électorale nationale indépendante a officiellement remis le fichier aux autorités. Vendredi, le président Issoufou Mahamadou a signé le décret de convocation du corps électoral pour les premières élections, les régionales, prévues le 13 décembre prochain. Abdoul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Israël normalise ses relations avec 2 pays arabes, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, sous l'égide de Washington. Jusque-là, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à entretenir des relations diplomatiques avec l'État hébreu, la question palestinienne étant le principal obstacle. Que signifient ces derniers accords de normalisation pour la région et les États-Unis? Qu'en est-il de l'Afrique contre le conflit israélo-palestinien? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La côte ouest des États-Unis continue de subir des incendies meurtriers et destructeurs. Les feux de forêt font rage dans cette région annuellement pendant plusieurs mois. Des élus locaux appellent à lutter contre le changement climatique qui, selon eux, a conduit à un record d'incendies cette année. Le président Donald Trump se rend ce lundi à Sacramento pour discuter de la situation avec des responsables de la Californie. Un reportage de Michel Quinn. Le récit est de Lionel Gaïma.
Dans l'Ouest américain, une atmosphère enveloppe les communautés, rappelant à chaque bouffée d'air la crise et la souffrance des populations. Des dizaines de personnes sont mortes et plusieurs milliers ont été obligés d'abandonner leur foyer. Les responsables locaux attribuent ces incendies aux effets du changement climatique. Le gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom.
C'est une sacrée urgence climatique. C'est réel et ça se passe. C'est la parfaite tempête. Cela se passe d'une manière sans précédent, année après année.
Le président Donald Trump rend visite aujourd'hui aux pompiers et aux élus de Sacramento en Californie. Lors d'un rassemblement électoral samedi à Reno, dans le Nevada, il s'est prononcé sur les incendies.
J'ai parlé aux gens de l'Oregon, de Washington, ils n'ont jamais rien vu de tel. Mais il s'agit de gestion des forêts. Souvenez-vous de ces mots très simples. Gestion des forêts, souvenez-vous. Il s'agit de la gestion des forêts et d'autres choses, mais de la gestion des forêts.
Les élus démocrates des États de Washington et de l'Oregon contestent cette qualification des faits par le président Jeff Merkley, un sénateur démocrate de l'Oregon.
Vous savez, le président a dit qu'il s'agissait de gestion de la forêt. C'est juste un mensonge énorme et dévastateur. Nous avons des blocs de neige qui fondent et sont devenus plus petits. Nos forêts sont devenues plus sèches. Nos océans sont devenus plus chauds et plus acides. Et cela se produit régulièrement au cours des dernières décennies.
Certains dirigeants dans l'ouest des États-Unis appellent à une action urgente contre le changement climatique. Le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee.
Il est exaspérant lorsque nous avons ce défi cosmique pour nos communautés, avec toute la côte ouest des États-Unis en feu, d'avoir un président pour nier que ce ne sont pas seulement les incendies de forêt, ce sont les incendies climatiques. Et si ce n'est pas déjà un signal aux États-Unis, je ne sais pas ce que cela prendra.
Certains militants écologistes se sont plaints que Joe Biden, le challenger démocrate du président Trump, n'ait pas fait du changement climatique un enjeu majeur dans sa campagne. Au cours du week-end, M. Biden a publié une déclaration appelant à agir maintenant contre le changement climatique. Ainsi, les incendies catastrophes naturelles et leurs causes pourraient devenir un autre thème de campagne cette année.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le journaliste indépendant cubain Roberto de Jesus Quiñones a été finalement réuni avec sa famille après une année de souffrance excessive en tant que prisonnier d'opinion à Cuba. Bien que soulagé par sa libération, les États-Unis réitèrent leur ferme condamnation de son injuste emprisonnement pour le simple acte de faire son travail, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration. Le 7 août 2019, le régime cubain a jugé Quiñones coupable des douteux chefs d'accusation de résistance et des désobéissances et l'a condamné à un an de travaux forcés. Sa détention et son jugement ont été marqués par un flagrant mépris des normes judiciaires. Les autorités cubaines ont informé Quiñones des chefs d'accusation retenus contre lui que quelques minutes avant le procès et ne lui ont pas permis d'avoir un avocat. Les procureurs du régime cubain ont empêché Quiñones de présenter les preuves de ses blessures aux mains de la police qui l'a arrêté. En mars, il s'est vu refuser la liberté conditionnelle. Il est honteux que le régime cubain incarcère un journaliste dont l'unique crime est de travailler pour une société plus transparente, a dit le secrétaire d'État Pompeo. Cela ne surprend pas non plus. Le régime cubain use de toute excuse pour museler ses critiques et violer les droits humains, y compris les droits à la liberté d'expression et les garanties d'un procès équitable. Cuba demeure le pays au climat le plus restrictif des Amériques en matière de presse, selon le Comité pour la protection des journalistes. La même organisation classe Cuba parmi les 10 pays qui ont le plus recours à la censure. Les médias écrits et audiovisuels sont entièrement contrôlés par le gouvernement communiste cubain et, légalement, doivent être en conformité avec les objectifs de la société socialiste. Les États-Unis appellent leurs partenaires démocratiques à travers le monde à faire du respect des droits humains, y compris la liberté de la presse, une condition de toute relation avec Cuba.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.